France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
L'équivalent de 500 bombes atomiques d'Hiroshima vient d'être rejeté dans l'atmosphère.
Здравствуйте, с вами говорит инженер атомной энергетики Григорий Медведев.
Bonjour, je m'appelle Григорий Медведев, je suis ingénieur atomiste, juste après la catastrophe de Tchernobyl en 1986.
Parce que si c'était grave, on doit nous évacuer.
Это как крушение, надо так начать, наверное.
Чернобыльская молитва.
Un accident a endommagé un des réacteurs atomiques d'une centrale nucléaire soviétique. La nouvelle est d'autant plus exceptionnelle et sans doute d'une certaine gravité qu'elle a été annoncée par l'agence TASS et reprise immédiatement dans le journal télévisé. Le communiqué est signé du Conseil des ministres de l'URSS. L'Union soviétique n'évoque en général qu'avec réticence et beaucoup de retard les accidents et catastrophes portant le lot de tous les pays. Il y a des victimes, précise l'agence officielle soviétique, en notant qu'elles sont soignées, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pour l'heure que de blessés. Des mesures sont prises pour éliminer les conséquences de l'accident, ajoutent, dans leur style laconique, les médias soviétiques.
Bonjour Hélène Laurent.
Bonjour.
Nous voulons entendre deux archives à propos de ce moment où tout commence pour Laetitia, la narratrice de votre premier roman, Partout le feu, paru aux éditions Verdier. Elle est née en 1986, quelques minutes avant l'explosion de la centrale de Tchernobyl.
Oui, effectivement, c'est un drôle de jour pour naître, mais évidemment, ça me permettait de créer un lien indissociable entre Laetitia et le nucléaire, d'une manière romanesque, bien sûr. On est de la même génération avec Laetitia, donc elle est liée à cet événement apocalyptique, et c'est peut-être ce qui est à l'origine de son engagement plus tard.
Et Tchernobyl, c'est aussi le livre dont on vient d'entendre le générique de l'adaptation en feuilleton par France Culture de Svetlana Alexeïevitch, La Supplication.
Oui, c'est évidemment un grand modèle pour moi. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette œuvre, c'est qu'elle cherche la langue de la catastrophe, en fait. C'est vraiment sa démarche, c'est d'essayer de trouver les nouveaux mots pour ses nouveaux sentiments qui émergent avec cette catastrophe inédite. Et sa mission à elle, d'autrice, c'est de poser des mots sur cette catastrophe. Et on peut dire que ma démarche peut-être se calque là-dessus. Enfin, il y a la catastrophe qui est au cœur de nos vies, en fait. Peut-être plutôt la catastrophe écologique, mais dans le cas de Laetitia, qui s'intéresse au nucléaire, il y a toujours la menace possible d'une catastrophe. Et quand il y a catastrophe, c'est apocalyptique, comme nous l'ont montré Tchernobyl et Fukushima. Donc il y a cet absolu dans le nucléaire qui m'intéresse. Et en même temps, Alexeïevitch, elle cherche les conséquences intimes de la catastrophe. C'est peut-être à cette échelle-là que moi, je cherche à travailler. Comment on vit quand on se trouve dans la mémoire de la catastrophe qui vient d'arriver et en attente de la prochaine, comme c'est le cas de Laetitia, mais comme en réalité c'est notre cas à tous, que les catastrophes soient plus ou moins proches. Et voilà, La Supplication, c'est un livre magnifique.
Hélène Laurent, Partout le feu est votre premier roman et c'est le récit, le monologue de Laetitia, on peut dire. C'est elle qui nous raconte sa vie. On est en 2017, si je ne me trompe pas, si j'ai bien calculé. Dans le roman, elle est née en 1986 et elle va revenir sur les événements les plus marquants de sa vie. Comment est-ce que vous avez rencontré Laetitia ?
Laetitia, dans ma représentation, ça pourrait être une autre version de moi-même si j'avais fait d'autres choix, si j'avais rencontré d'autres personnes. Donc il y a cette idée de fausse gémilité qui est aussi un motif du texte, puisque Laetitia a une sœur jumelle, Margot. Comme moi, elle a fait de longues études, elle a pu faire des boulots qui n'avaient aucun sens, elle s'est retrouvée désespérée. C'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, c'était un moment où peut-être je sortais d'un certain confort, d'un certain déni, en essayant de me confronter, voilà, aux chiffres, à la réalité du désastre écologique. Et Laetitia, c'est quelqu'un qui est très lucide, mais qui est, je dirais, entre deux récits. C'est-à-dire qu'elle fait le deuil d'un récit qui est celui de de l'accumulation de richesses, de l'élévation personnelle dans sa carrière, d'une visée du confort, qui est ce dans quoi elle a grandi, et moi aussi, pour faire un parallèle entre les deux. Et elle s'est construite avec ses camarades ce récit de collectivité et de solidarité, sauf qu'elle en est privée en raison de la répression contre les militants antinucléaires qu'elle subit. Donc elle est dans ce flottement, en fait, elle est dans cette crise du récit. Et c'est cette perte de repères que j'avais envie d'aborder dans ce livre.
Et qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans un premier roman, alors ? Est-ce que vous saviez que ça allait devenir un roman, déjà ?
C'est pas mon premier roman. J'ai fait le master de création littéraire de Paris 8. Et là, je travaillais sur un tout autre projet, et sur un tout autre sujet, puisque c'était plus aborté plutôt sur le thème de la transmission, la maternité. Donc c'était très différent, la forme était beaucoup plus classique. Et c'était aussi beaucoup plus auto-fictionnel. Et il y a quelque chose qui m'a empêchée de terminer ce projet, en fait. Je ne sais pas exactement quoi, je ne sais pas si je le saurai un jour. En tout cas, c'est un peu tombé à l'eau après plusieurs années de travail. Et je pense que ce roman, il vient d'une grande frustration et d'un sentiment d'urgence, urgence sociétale, politique, mais aussi urgence personnelle, de me dire il faut que je parvienne à écrire un livre, en fait, et rapidement, sinon je vais abandonner. Et cette forme faisait que je me situais un peu entre poésie et roman, mais... Voilà, cette histoire a coulé naturellement sans que je fasse de plan, sans que je sache exactement où je voulais aller.
Ce qu'on découvre dès les premières lignes de Par tout le feu, c'est que c'est un roman écrit dans une forme de prose un peu désarticulée. On peut dire que on va à la ligne très souvent, un peu comme dans des vers libres, et qui transcrivent une certaine forme d'oralité, la façon dont on pense, la façon dont, bien sûr, ça reste de la littérature, hein, de la langue, et la façon dont on parle. Est-ce que c'était ça qui était présent dès le départ, une voix qui vous parlait ?
En fait, j'ai commencé à écrire la première scène, puisque j'ai fonctionné vraiment par scène. Ça a été un échange de textos entre Laetitia et Fauteur, donc son amant, enfin un de ses amants. Donc il y avait dès le départ ce style télégraphique, le fait d'aller à la ligne. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de poursuivre en fait ce retour à la ligne très fréquent, ce côté à la fois haché, mais en même temps qui s'intègre dans un flux de conscience, hein, quelque chose de quasi liquide. Et c'est un fil que j'ai tiré, qui était très plastique en fait, qui me permettait à la fois de couler des dialogues dans la narration, d'intégrer des flux extérieurs. Il y a beaucoup de paroles de chansons.
Des post-it.
Voilà, il y a des post-it. Donc c'est une forme en fait qui m'a assez réjouie, sur laquelle je suis tombée par hasard, mais qui me permettait une assez grande liberté en fait.
Alors, on attrape, pour ainsi dire, Laetitia à un moment justement assez crucial de sa vie, un moment de basculement complet. Et le livre s'ouvre par une scène dont elle se souvient justement d'un peu d'un moment de bonheur qui était celui du collectif, de la collectivité, dans une soirée, une fête avec des militants. Elle est elle-même engagée et militante. Et vous avez cette phrase, « Se laisser porter par la respiration du groupe, une communion et un piège ». C'est quoi ce piège du groupe, alors ? Pour un militant, au contraire, on pourrait penser que c'est tout l'inverse, que sans groupe, il n'y a pas de militance possible.
C'est vrai. Bah, c'est peut-être le piège dans lequel elle se retrouve à la fin. Disons que ce groupe lui permet d'inventer ce nouveau récit où elle est plus désorientée, où sa vie a un sens. Mais le piège se referme sur elle dans la mesure où elle va peut-être forcer la radicalité, ou en tout cas être dans un désespoir tel, en fait, dans un deuil tel qui ne peut pas être soigné, que elle va finir par se faire mal, en fait. Donc c'est pas une affirmation selon laquelle le groupe ou le militantisme serait un piège dans l'absolu, mais pour Laetitia, dans sa représentation, peut-être dans son impossibilité à faire le tri, peut représenter un piège. Ouais.
Donc cette bande, on peut pour le dire d'une façon, bande d'amis en tout cas, ou de camarades, parmi eux il y a Fauteur, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est un de ses amants, peut-être celui avec lequel elle a une relation la plus forte, ou en tout cas qui elle échange le plus, mais lui a une amie, et plus ou moins en couple avec quelqu'un d'autre, enfin, reste tout ça est un peu compliqué, ce qui n'aide pas non plus cette pauvre Laetitia à faire un peu mettre les choses au clair. Et ils sont dans une maison qu'elle appelle la maison Lutte, une maison de l'activisme, achetée à plusieurs, raconte Fauteur, avec dedans une anarchie de choses utiles. Et j'ai trouvé cette expression absolument magnifique, une anarchie de choses utiles.
Oui, alors ça c'est directement inspiré d'une maison à Bure, donc qui est probablement le futur lieu d'enfouissement du projet Cigéo, dont est inspiré mon roman. Évidemment, j'ai fictionnalisé les lieux, etc. Et la maison Lutte ne s'appelle pas comme ça, mais il y a eu toute une démarche de la part des militants de rachat, en fait, de maisons dans le village, de terres, histoire de s'y installer et puis de créer un lien fort avec le territoire. Et donc c'est une maison dans laquelle se rencontrent des gens extrêmement différents qui viennent lutter pour des raisons extrêmement différentes aussi. Certains sont locaux, n'ont jamais milité, mais se retrouvent emportés en quelque sorte dans l'activisme parce qu'ils sont agriculteurs et leur terre va être expropriée, ou parce qu'on touche à leur bois et qu'ils veulent continuer à aller cueillir les champignons. Et puis il y a des gens voilà qui venaient de Notre-Dame-des-Landes, il y a des écoféministes qui s'y retrouvaient régulièrement, puisque bon, dans la lutte antinucléaire, il y a aussi historiquement une grande dimension féministe aussi, enfin des combats féministes qui ont été menés. Donc c'est vraiment un lieu hétéroclite, et c'est vrai que moi j'avais envie de parler de cette joie en fait dans le militantisme, de représenter ce côté lumineux, le côté extrêmement constructif et positif de la rencontre, même quand on est très différent, et du combat commun. Et cette maison, elle incarne ça.
Alors pour Laetitia, on sent son militantisme et ses causes transparaître tout le temps. Ce qu'il a défini presque d'abord, c'est la violence de ses convictions.
Oui, elle est complètement en porte-à-faux avec son entourage. Du fait de ses convictions, elle est complètement isolée dans sa famille. Bon, elle a perdu sa mère, Mémou, qui était peut-être une alliée, on ne sait pas trop, mais voilà, elle regardait ce film, ce documentaire White Plains ensemble, qui incarne un peu sa préoccupation pour le vivant, qu'elle est la seule à partager maintenant. Donc elle vit chez son père, Pépou, qui a un gros SUV, qui va travailler au Luxembourg tous les jours, qui est dans le marketing, qui incarne un peu cette société que Laetitia aborde. Donc évidemment, elle est extrêmement claire sur ses points de vue radicaux. Et de ce fait, elle est très seule, en fait, hors de sa communauté de militants. Donc, c'est une femme qui est vraiment totalement isolée.
Alors, on est dans l'Est de la France, ce coin de France qu'on a entre la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Mais le nom du village en question n'existe pas, c'est Boudin.
Oui.
Ce qui est assez amusant, d'ailleurs, d'avoir choisi... Boudin.
Oui, j'ai voulu fictionnaliser les noms de lieux parce que dès le départ, je voulais signaler très clairement qu'il ne s'agissait pas d'un texte documentaire, ce qui n'empêche le travail documentaire en fait. Mais j'avais vraiment envie de me permettre cette liberté de dériver parfois un petit peu des faits, d'exagérer ou de minimiser. Même si au final je l'ai assez peu fait, mais en tout cas pour moi c'était vraiment une façon de m'accorder un peu de marge. Et Boudin, je crois que j'ai choisi ce nom parce qu'il incarnait quelque chose de ridicule en fait, de risible, et que dans cette lutte il y a vraiment ce sentiment d'être méprisé, voilà, que ce territoire a été choisi pour enfouir les pires déchets nucléaires de France, parce que c'est un territoire rural qui est en voie de désertification, et que de toute façon les gens ils sont pauvres, on va leur offrir quelques boulots et puis ils accepteront qu'on fabrique ce laboratoire. Donc il y a ce sentiment fort, et je pense de manière générale, pas uniquement en Meuse ou voilà. Moi, je l'ai vécu venant du Grand Est. Quelques moqueries. Il faut effacer son accent. Il faut donc ce sentiment de mépris. Je l'ai en quelque sorte, je l'ai incarné dans le nom de Boudin.
Oui, c'est ce que vous écrivez très clairement. Enfin, c'est ce que dit Laetitia. En tout cas, que cet endroit a été choisi justement parce qu'on pense que c'est là qu'il y aura le moins de résistance.
Oui, il y a différents paramètres. C'est aussi une région qui est froide, donc c'est plus difficile de s'installer dans une forêt quand il fait moins 10 l'hiver. Donc ça dépend également des politiques locaux, de leur niveau d'implication. En l'occurrence, voilà, très vite, certains politiques se sont engagés dans ce projet, ont voulu offrir des emplois aux gens de la région, ce qui est le cas en partie. Il y a aussi des millions d'euros qui sont déversés, voilà, dans des bibliothèques, des lavoirs, des lampadaires, tous plus spectaculaires les uns que les autres, alors que les villages sont quasiment vides. Donc oui, il y a cet enjeu de trouver quand même quel territoire va accepter, qui veut vivre en fait au-dessus d'une poubelle nucléaire. C'est quand même assez compliqué, même si voilà, il s'agit de trouver un endroit. Mais il y a eu d'autres tentatives de s'implanter dans d'autres territoires, mais la résistance a été extrêmement vive et les projets ont été abandonnés. Et la Meuse et la Haute-Marne, effectivement, sont des endroits qui sont vraiment littéralement en train de se désertifier avec une densité très très faible. Donc c'est plus facile tout simplement de s'y installer, d'installer ce genre de projet.
Et donc Laetitia, au moment où on fait sa connaissance, elle a un travail. Elle travaille dans un endroit, alors je ne savais même pas que ça existait, qui est une piste de ski artificielle couverte, si j'ai bien compris, qui a l'air d'être une aberration absolument écologique et environnementale. Et est-ce que ça existe ?
Ça existe, ouais. Ça existe, c'est pas très loin de chez moi. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup en France, peut-être une ou deux. Et comme vous le disiez, c'est vraiment une aberration écologique. Je sais même pas si ça marche, en fait. Je sais même pas si ça intéresse les gens. Mais ça m'amusait, évidemment, de la situer dans ce contexte pour renforcer le contraste extrêmement fort entre ses convictions et ce qu'elle doit faire au quotidien pour s'alimenter, pour gagner de l'argent. Et ce contraste très fort avec le personnage de Balek, qui est son patron, qui lui, y croit dur comme fer à ce projet, permettait aussi de créer des scènes un peu plus comiques.
Il faut dire qu'à part Fauteur, donc, qui est un militant, tout le reste de son entourage partage pas du tout ses convictions et ses combats, hein, loin de là, à l'opposé. Bien sûr, sa sœur jumelle, son beau-frère, mais aussi, effectivement, son amant et patron.
Oui, Balek, c'est un personnage particulier qui est à la fois très amoureux de Laetitia et elle lui rend très mal. Elle l'utilise, hein, clairement, pour avoir un logement une fois qu'elle se fait virer de chez son propre père. Et Balek, effectivement, il partage aucune valeur, tous les deux. Il partage aucun sujet de discussion. Enfin, c'est purement opportuniste. Lui, voilà, il est très fier d'être patron de cette entreprise, malgré le fait qu'elle fonctionne très mal. Et donc, ça crée une relation, effectivement, très toxique et assez triste pour Laetitia. C'est une des facettes de son isolement, quoi, ce faux couple avec Balek.
Un des personnages aussi les plus fascinants, peut-être, c'est le beau-frère. On l'adore. Le beau-frère qui, lui, alors pour le coup, il est non seulement l'opposé de Laetitia, mais il prend en plus un malin plaisir à aller dans le sens de la contradiction, à essayer toujours de montrer à Laetitia à quel point elle se trompe.
Oui, c'est peut-être un des seuls qui résiste encore. Peut-être que les autres ont déjà abandonné de discuter avec Laetitia parce qu'ils sont sur des plans tellement différents qu'il y a vraiment cette incommunicabilité entre eux. Et d'une certaine manière, il ressemble à Laetitia puisqu'il a ce rapport très intense au débat politique, à son mode de vie qu'il a envie de défendre. Et en même temps, chaque rencontre entre les deux mène à des conflits assez forts, notamment le moment où bon, il y a une soirée où dans le sens où manque de s'étouffer. C'est vrai que pour moi, ça a été un petit plaisir d'écrire ce passage. puisque je trouve que dans le sens où voilà, il incarne ce trop plein en fait. Il s'étouffe en mangeant énormément de charcuterie d'un coup. C'est quelqu'un qui vit dans l'opulence, qui le revendique, qui est dans le déni du changement climatique. Donc cette scène, c'était vraiment un petit plaisir de lui faire un peu mal sans trop de conséquences.
Est-ce que avoir des convictions comme ça, très affirmées comme Laetitia, ça peut empêcher de vivre? Parce qu'on a l'impression quand même dans le livre que finalement, elle a quand même du mal à avoir une certaine forme de diplomatie qu'on peut tous avoir avec ce qui nous entoure, et que c'est ça qui la pousse dans une radicalité qui va presque la détruire.
Oui, je pense que à ce niveau d'immersion dans la catastrophe et le fait de ne pas pouvoir en sortir, puisque évidemment il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les catastrophes, on les voit, on les entend tous les jours, mais évidemment la vie ne se résume pas à ça. Et Laetitia, du fait d'avoir perdu tous ses alliés en quelque sorte, et puis peut-être d'un tempérament peu diplomate, se retrouve effectivement dans une incapacité à vivre et à trouver des compagnons de route, si ce n'est ceux qui partagent exactement ses valeurs. Donc oui, je pense que malheureusement, à ce stade-là, c'est compliqué, mais on peut évidemment être dans la réflexion de Laetitia et trouver une sortie, quoi. Ça peut être des phases, ça peut être... Mais elle n'a pas assez de ressources, en tout cas à ce moment-là, pour s'extirper, en fait, de cette noirceur.
Une des références qui revient à plusieurs reprises dans le roman, c'est le documentaire Wild Plants, Plantes sauvages, du Suisse Nicolas Humbert, que Laetitia regardait en boucle avec sa mère et qu'elle regarde à nouveau dans le présent du roman et dont elle nous parle. Qu'est-ce que ce documentaire représente pour vous ?
Ce documentaire, je l'ai vu au moment où je commençais à écrire. J'ai trouvé vraiment d'une beauté, à la fois d'une beauté et d'une simplicité saisissante. Et j'avais envie de garder une trace des images que j'avais vues. Donc, c'est un documentaire qui va faire les portraits successifs de personnes, on va dire, ordinaires, qui ont un lien avec les plantes sauvages, donc wild plants. On voit notamment ce monsieur qui a tout un projet assez complexe de recartographier Zurich en y plantant des graines de légumes et de fleurs. Comme ça, d'une manière très modeste, en fait, de changer la ville et puis d'intégrer du végétal à l'urbain. Et il y avait dans cette démarche quelque chose de... Peut-être ce que cherche Laetitia, c'est-à-dire un lien au vivant, mais en l'occurrence, c'est plus un lien qui se trouve plus dans la vie que dans la mort. Et Laetitia, sur cette échelle-là, va être dans une énergie plus morbide, en fait. Elle trouve pas cette joie, en fait, de cohabiter avec le vivant, même s'il se détruit, même si on peut déplorer une perte, mais... Je pense qu'elle visionne ce documentaire pour se raccrocher en fait à cette possibilité-là d'être proche du vivant et d'être dans la joie simple de le côtoyer.
Alors, elle a des post-it, Laetitia, sur les murs de sa chambre. Et voilà le post-it numéro 19. Disparition de la biodiversité, 1000 fois supérieure au taux naturel d'extinction des animaux. Crise actuelle, 100 fois plus rapide que dernière extinction naturelle, dinosaures. 75% d'environnement terrestre, 40% d'environnement marin, 50% des cours d'eau. Signe important de dégradation sur 105 732 espèces étudiées, 28 338 classées menacées. Effectivement, vivre avec cette omniprésence de la catastrophe, on sent que ça l'amène le poisson au bord de la folie, en fait.
Oui, c'est vrai que moi, quand j'étais plongée dans ces chiffres et dans cette réalité-là, je ressentais un désespoir absolu de me dire qu'est-ce qu'on va vivre dans les prochaines années, à quoi s'attendre. À un moment, j'évoque le terme de solastalgie. C'est une espèce de nostalgie d'un futur qui n'adviendra pas d'un futur où le vivant peut continuer à s'épanouir. C'est une sorte d'exil immobile où on voit notre environnement en fait changer tellement vite qu'on... C'est comme si on voyageait finalement, mais sans ce plaisir du voyage, quoi. On subit en fait ce changement. Et Laetitia est évidemment en plein là-dedans, comme je l'étais, je pense, au moment de la rédaction.
Merci beaucoup, Hélène Lorrain. Merci. Partout le feu est paru aux éditions Verdier.